L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la programmation d'avril d'EV, la scène universitaire, et nous sommes avec Julie Bordas. Bonjour.
Bonsoir.
On fera le tour de la programmation d'EV pour ce mois d'avril, riche en spectacles, en ateliers et en concerts. Puis, on recevra Aurore Bocadé-Oro, une artiste peintre qui expose en ce moment à la brasserie 72. Enfin, nous passerons aux chroniques étudiantes avec la chronique cinéma de Maxime. Et tout de suite, on commence sans plus attendre avec notre invité du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand plus on est de fou et plus on s'emmerde.
Julie Bordas, vous êtes directrice du service culture de l'Université du Mans et vous venez nous parler de la programmation de la scène universitaire EV pour le mois d'avril. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler à quel public s'adresse EV?
Oui, je crois qu'il faudra toute une ville rappeler. La salle EV est ouverte à tous les publics. Ce n'est pas du tout un lieu réservé pour les étudiants. On y accueille donc forcément des étudiants, mais aussi du personnel et puis surtout des gens curieux qui habitent ici ou là, qui fréquentent la fac ou pas. En tous les cas, notre enjeu, il se situe là parce qu'il n'est pas question de faire de cet endroit une espèce de réserve à étudiants. C'est vraiment un lieu qui se veut ouvert, comme l'est en réalité l'université, puisque tout un tas de publics fréquentent l'université, traversent l'université, ne serait-ce que pour aller acheter du pain de l'autre côté. Et EV doit être aussi à l'image de cette volonté d'ouverture. Et puis, bien sûr, c'est un grand mot, mais il y a quand même cette notion d'universalisme. Il faut que ça soit ouvert absolument à tous les publics. Et puis, moi, je pense que les étudiants sont bien contents aussi de rencontrer des gens différents, plus vieux, qui n'ont pas les mêmes parcours. Et je pense que c'est intéressant, ces échanges.
Alors, EV n'est pas réservée aux étudiants. Cependant, il y a quand même des avantages tarifaires pour les étudiants, n'est-ce pas?
Ah oui, on les bichonne, bien sûr, on les bichonne. Oui, mais parce que c'est normal. Enfin, nous sommes quand même situés à l'université. Et puis, je vous rappelle que les étudiants payent déjà des droits d'inscription pour venir étudier sur le campus, ici comme partout ailleurs, et que les étudiants ne sont pas forcément très fortunés. Ça nous paraît hyper important de faire un tarif préférentiel pour les étudiants, sans pour autant défendre la gratuité sur tous les projets, parce que ce serait aussi leur donner une fausse image de ce qu'est le spectacle vivant et de ce qu'est la création artistique. Les artistes mangent, les artistes paient des factures, j'imagine, ils s'habillent comme tout le monde. Et nous, on les rémunère, et donc forcément, c'est important aussi qu'il y ait une petite participation, même forcément, elle est de 4 euros. Mais 4 euros, pour certains étudiants, c'est déjà une somme, en fait. Donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça.
Alors, on va rentrer plus en détail maintenant dans la programmation pour ce mois d'avril. Programmation qui commence dès ce soir, mardi 2 avril, avec une mise en scène clownesque de Cyrano de Bergerac par Solène et Hubert. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce spectacle?
Alors, non, je ne vous en dirai pas plus. Non, mais c'est important de le noter. Cette semaine démarre les Journées des Arts et de la Culture dans l'enseignement supérieur, qui est une espèce de grande aventure initiée par le ministère de l'enseignement supérieur. Il n'y a pas du tout d'obligation à participer, mais nous, on aime bien quand même être présent sur ce temps fort-là qui est donc initié en haut lieu. Et on a des propositions qui sont assez différentes d'une année sur l'autre. Et cette année, j'ai fait un peu ce pari de rassembler les structures extérieures, les associations extérieures qui, à un moment ou un autre, m'avaient sollicité et avaient souhaité trouver une petite place, peut-être pas dans la programmation en tant que telle de EV, mais en tous les cas, pouvoir trouver une place pour jouer et pour profiter de ce plateau.
D'accord.
J'ai donc fait cette proposition de carte blanche à différentes structures associatives du territoire pour leur proposer une soirée libre. Donc je peux pas exactement vous parler de ce spectacle parce que moi-même je ne l'ai pas vu. En revanche, ce qui m'intéressait à plusieurs titres, c'est que d'une part, il s'agissait effectivement, comme vous l'avez dit, d'une soirée avec des clowns et on en a pas accueilli tant que ça à Eve depuis que j'y suis. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant d'ouvrir aussi sur cette esthétique-là et sur cette forme-là. Et puis, c'est l'histoire de Cyrano de Bergerac. Donc, j'espère, enfin, on verra tout à l'heure au moment de l'ouverture de la billetterie, mais j'espère que ça peut aussi concerner des étudiants qui sont chez nous inscrits en lettres, des étudiants ou leurs enseignants, évidemment. Et puis pour finir la boucle, pour la petite histoire, il se trouve que un des deux clowns est Florent Avrillon, et Florent Avrillon travaillait à Eve à mes côtés première année où j'ai pris ce poste. Et à l'époque, il s'occupait de la régie. J'ai trouvé que c'était aussi un chouette clin d'œil que de lui ouvrir les portes d'un lieu qu'il a quand même aussi en partie imaginé, équipé, etc. Je trouvais ça plutôt bien de lui rendre aussi cette place-là. Voilà.
Très étonnant le projet de mettre Cyrano de Bergerac en spectacle de clown, c'est assez inattendu.
Même s'il
se joue quelque chose au niveau du nez, c'est vrai. Mais
c'est ça, il doit y avoir un truc caché derrière le nez rouge. Mais si tant est que le nez de Cyrano arrive à rentrer dans le nez rouge, mais c'est vrai que ça m'interpelle cette forme. Voilà, je trouve ça. Eve, ça peut être aussi l'endroit où on sort un peu des sentiers plus traditionnels. Ouais.
Alors, puis le 4 avril est projeté le film documentaire Droit dans les yeux de Marie-Francine Lejalus. Oui. C'est un film qui rentre dans le cadre du Festival du film judiciaire, c'est bien ça ?
Oui, exactement. Alors, c'est pas forcément, ça ne se répète pas forcément tous les ans, mais c'est pas la première fois qu'on a ce partenariat avec Graines d'Images dans le cadre de ce Festival du film judiciaire. Et là, ce documentaire raconte le chemin parcouru par des étudiants en droit. Alors, ce n'est pas des étudiants qui ont été filmés ici au Mans, c'était dans une université parisienne, mais peu importe, l'idée est la même. Vous le savez sans doute, il y a des étudiants qui, avant même d'avoir fini leurs études, consacrent du temps pour des consultations juridiques.
C'est la clinique juridique.
Exactement. Donc, la clinique juridique, enfin, en tous les cas, c'est comme ça que c'est nommé dans le documentaire. Et chez nous, ça s'appelle des consultations juridiques, mais le procédé principe est exactement le même. Ce sont donc des étudiants qui accueillent des citoyens, des gens du quartier, des gens du Mans, des gens d'ailleurs, qui viennent là avec tout un tas de problèmes, de difficultés, de choses compliquées à gérer sur le plan juridique. Et ces jeunes, ces étudiants, en général en binôme, tentent de donner des conseils juridiques et de dépatouiller un certain nombre de dossiers. C'est un documentaire qui est hyper intéressant parce que il y a un vrai décalage entre ce que l'on perçoit le plus souvent dans les médias ou y compris au cinéma bien sûr, ce que l'on perçoit des avocats qui sont en train de jouer un rôle quand même quand ils sont en train de plaider, etc. Et qui sont très forts, ils sont redoutables parce que justement c'est aussi sans doute des très très bons comédiens. Et là c'est des jeunes gens qui n'ont pas encore le même bagage, qui n'ont pas encore la même expérience, mais qui ont aussi une autre sincérité et qui sont eux-mêmes très touchés finalement par l'histoire racontée par ces citoyens qui viennent les voir et qui sont dans ce besoin-là.
On n'est pas dans la mise en scène grandiloquente.
Exactement. Et c'est un documentaire qui est très intéressant en fait. Je suis ravie de pouvoir l'accueillir à Eve. Ce sera évidemment aussi l'occasion justement d'accueillir un certain nombre de nos étudiants manceaux qui sont inscrits chez nous à la fac de droit et puis de tisser encore et encore des liens avec leurs enseignants qui sont d'ailleurs partie prenante dans l'organisation de cette soirée.
Alors le lendemain, le 5 avril, donc place au Métal avec un concert de trois groupes. Necrowetch, Rotten et Nyx. Alors, c'est une soirée qui est organisée par qui ?
Alors pareil, voilà, c'est exactement dans le même concept de cette espèce de carte blanche. On avait été sollicité en début d'année par une association dont un certain nombre de membres sont également des collègues de l'université et qui organise depuis des années des soirées métal. Donc c'est Wizard Assault. Là, effectivement, moi sur le métal, je suis vraiment pauvre. Enfin, je sais vraiment pas quoi dire. J'y connais vraiment, vraiment fichtre rien.
Donc, comme une soirée, il y a trois groupes qui vont
passer. Oui, c'est ça. Et puis, c'est intéressant aussi. Enfin, au-delà de la question de qu'est-ce qui m'intéresse moi et qu'est-ce qui me plaît à moi, on fait pas de la programmation non plus que pour se satisfaire soi-même, en fait. Alors, évidemment, c'est quand même plus facile sur le long terme de faire des propositions qu'on défend bien, qu'on défend mieux parce qu'on les apprécie soi-même. Mais moi, ça, je trouve intéressant qu'on puisse également à Eve donc accueillir du métal. On avait tenté cette expérience déjà au mois d'octobre, ça avait assez bien fonctionné. Donc Wizard Asso a souhaité reproduire une deuxième aventure comme ça.
Alors on passe ensuite à un stage de musique le 6 avril, oui. De la musique assistée par ordinateur. Oui. Ça veut dire quoi ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Eh bien, ça fait partie des stages et des ateliers qu'on propose tout au long de l'année. La MAO se fait chez nous en atelier de manière plus régulière et de manière hebdomadaire. En tous les cas, c'est comme ça que ça a été proposé au premier semestre.
MAO, c'est musique assistée par ordinateur.
Oui, exactement. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont des musiciens, mais qui n'ont pas d'instrument de musique à proprement parler dans les mains, et qui pourtant créent plein de sons et nous embarquent en voyage sonore de cette manière. Et on travaille depuis quelque temps avec Romain Loiseau, qui est donc un musicien et qui fait de la musique électro, évidemment, avec toutes ces machines. Et il propose de transmettre ses savoirs à un groupe de... Là, ce sera plutôt des étudiants, d'ailleurs, qui se sont pour l'instant inscrits, en tous les cas. Mais il reste encore quelques places, donc il est temps. Je profite de ma présence ici, à vos côtés, pour dire qu'il est encore temps de s'inscrire et que, y compris pour les stages et les ateliers artistiques qu'on propose tout au long de l'année, on accueille et on accepte aussi des extérieurs et des gens qui ne sont pas du tout rattachés à l'université. Donc, fans de MAO, si vous voulez vous amuser samedi prochain, par ici, c'est à F que ça se passe. Il suffit de nous contacter pour procéder à l'inscription.
Eh bien, c'est noté. Merci, Julie Bordas. Alors ensuite, du 9 au 12 avril, c'est la restitution des travaux de l'Atum avec la pièce Presque égale à. Drôle de titre. Est-ce que vous en savez quelque chose de cette pièce ?
Eh bien, alors c'est pareil, hein. Là vous m'interrogez sur des projets qui sont des créations. L'Atum, c'est notre troupe de théâtre universitaire qui répète toutes les semaines dans les locaux de Eve. Et qui, c'est plus que la restitution des travaux. À cette occasion, ils créent un spectacle de toutes parts. Ils ont donc choisi cette pièce qui est d'un auteur suédois. Ils sont toujours très...
C'est pas eux qui ont créé la pièce.
Ah non, le texte est écrit et cette troupe universitaire est encadrée par un metteur en scène professionnel et encadrée par Reerdin Larjam depuis déjà 2 ans. Qui est le directeur artistique et le metteur en scène de la compagnie El Ajouad et qui travaille donc à nos côtés. Donc les
acteurs sont des amateurs mais encadrés par un professionnel.
Ah oui, exactement. De la même manière que notre orchestre Sympho Campus est composé de musiciens amateurs mais encadrés par une chef d'orchestre professionnelle, de la même manière que le Big Band de l'université ou le chœur de l'université sont des formations amateurs mais encadrés par des pros. C'est hyper important en fait parce que les artistes ont quand même forcément un autre regard, une autre expérience et ils ont tant à apporter à nos étudiants et aux amateurs qui sont dans ces pratiques-là. On ne peut pas obliger nos associations étudiantes à travailler avec des professionnels, avec des artistes professionnels, mais en tous les cas, on leur conseille toujours grandement de le faire. Et pour la troupe de théâtre de l'université, ça a toujours été comme ça. Cette troupe a plus que 30 ans.
Ah oui.
Ses membres se renouvellent d'une année sur l'autre. Il y a toujours un beau noyau d'étudiants. Et puis, il y a aussi quelques anciens étudiants qui restent là tellement ils sont motivés, tellement ils sont contents de participer à cette aventure. C'est vraiment une aventure, hein. Le travail commence fin septembre, quasiment au moment de campus en fait, et pour avoir des représentations là au mois d'avril, c'est énormément de boulot. En plus des répétitions du lundi, il y a des week-ends entiers qui sont consacrés à ce travail.
C'est
vraiment un énorme investissement, donc il y a évidemment des gens qui restent dans cette aventure humaine-là, et en général, ça fonctionne très bien, parce qu'ils sont aussi encadrés par un professionnel.
Donc ça, ce sera du 9 au 12 avril.
Oui.
Ensuite, alors, on va accélérer un petit peu, parce que je vois le temps qui défile.
Ah, mais je suis désolée, le mois d'avril est très chargé.
Le 16 avril, c'est donc la restitution des ateliers artistiques UEO. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que
c'est ? Alors là, c'est vraiment une restitution d'un travail. Il ne s'agit pas d'un spectacle créé de toutes parts, mais on arrive déjà à la fin du second semestre. Tous les étudiants et personnels et extérieurs qui sont inscrits dans nos ateliers proposés de manière hebdomadaire vont montrer effectivement le résultat du travail mené dans les ateliers. Voilà. Et cette année, c'est le thème des années 70, parce qu'il y a toujours une thématique et que les artistes intervenants essayent de mêler les groupes pour qu'ils puissent travailler les uns avec les autres.
Alors, sur la fin du mois, on passe à des concerts. Donc, le lendemain, c'est-à-dire le 17 avril, c'est le concert du Big Band de l'université. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est quoi le Big Band, en fait?
Eh bien, voilà, le Big Band, c'est une grosse, grosse formation. Ils sont 25 musiciens amateurs encadrés par un artiste professionnel, Jean-Marc Dormeau. Pareil, ça a au moins 30 ans d'existence. C'est un bel ensemble, ça sonne super bien. Et ils ont un répertoire cette année autour de Quincy Jones.
D'accord.
Quincy Donc, on Jones vous invite à venir écouter ça le 17 avril.
Donc, Quincy Jones, qui est un compositeur et un trompettiste et chef d'orchestre.
Voilà. Oui, ouais. Alors, qui travaillait beaucoup avec des stars, hein, Michael Jackson, et
j'en
passe des meilleurs.
Oui, c'est une pointure, quoi.
Ouais, ouais.
Alors, ce sera de nouveau un concert le 23 avril avec No Sax, No Clar. Mais qui sont-ils?
Alors là, je voudrais parler des deux soirées, en fait, parce que le 23 et le 24 avril, on revient sur une vraie programmation, enfin vraie, excusez-moi, c'est pas le bon terme, une programmation avec des artistes professionnels, une programmation qui s'inscrit vraiment dans notre plaquette à nous et dans notre saison à Eve. Deux soirées jazz, parce que nous, on a toujours accueilli des concerts de jazz à Eve. Eve n'est pas réputée sur le plan acoustique pour des musiques très amplifiées, mais en revanche, pour du jazz un peu acoustique, ça sonne vraiment, vraiment super bien. Donc, on continue, nous, de faire cette proposition sur le jazz. Et puis, malgré les déboires et malgré les mésaventures autour du jazz au Mans, c'était aussi notre manière de dire que nous, on était encore là et qu'on était capable de poursuivre quand même une proposition. Donc, deux soirées à suivre. No Sax, No Clar, c'est un duo avec un clarinettiste et un saxophoniste, un duo qui tourne déjà pas mal. Ils avaient remporté le tremplin Jazz Migration en 2019. Jazz Migration, ça permet de valoriser, enfin en tous les cas de mettre la lumière sur vraiment le jazz émergent. Donc ils ont bien émergé depuis, ils viennent de sortir leur troisième album, ils tournent énormément en Europe, le son est super intéressant, enfin moi c'est une proposition vraiment que j'apprécie, je suis ravie de pouvoir les accueillir le 23 avril. Et le lendemain, le 24, on accueille le groupe Inuit. Là, on sera, pour cette soirée, nous sommes en partenariat avec Superformat. Et Inuit vient de remporter le tremplin Jazz Migration. Donc là, en 2020.
C'est deux groupes qui ont eu ce prix-là.
Exactement, qui sont passés par cette démarche-là. Donc Inuit est un groupe plus jeune, mais avec quatre filles. C'est vrai, pareil, un son très intéressant, beaucoup de voix, enfin des mélodies qui sont super. Enfin, je suis très très contente de pouvoir les accompagner et, parce que c'est important aussi, c'est bien de faire partie des jurys pour donner des prix à un tel. Je trouve que la démarche d'aller au bout et puis de programmer ensuite les groupes pour lesquels on a voté, je trouve que c'est encore plus intéressant. Enfin, c'est une manière d'aller encore plus loin, en fait.
Alors, si on résume, on a donc du spectacle de clown, du théâtre, un film documentaire, de la musique par ordinateur, du métal, du jazz. Donc, une programmation qui est très éclectique et multidisciplinaire. Où est-ce qu'on peut la consulter plus en détail, Julie Bordas?
Eh bien, sur le site de FSN Université, par exemple, ça c'est possible de le faire. Sur le site de Le Mans Université également, je crois, mais surtout sur notre site à nous, FSN Universitaire Le Mans.
Ça marche. Merci beaucoup, Julie Bordas.
Merci à vous.
Merci pour être venue nous parler de la programmation de F pour le mois d'avril. On fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Nuit Incolore le 3 avril à 20h à l'Oasis en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute donc Necro Wretch Sword of Digel. Et je rappelle qu'il passe à Eve ce vendredi 5 avril avec Rotten Enix. De retour dans l'amphi avec une peintre du Mans, Aurore Boccadeoro, qui expose à la brasserie 72. Bonjour.
Bonjour.
Alors avant qu'on entre dans les détails de votre peinture et de votre pratique, je voudrais savoir comment est-ce que vous êtes mise à la peinture.
Alors j'ai commencé très jeune. J'étais enfant, j'ai commencé dans un atelier à 7-8 ans.
D'accord.
Que j'ai jamais trop quitté, que j'ai fréquenté en dilettante.
Et voilà, c'est venu tout seul. Et
voilà, ça a toujours été quelque chose dans ma vie qui est resté. J'ai fait une école d'art un petit peu.
Il y a eu un apprentissage quand même de la peinture. Ça n'a pas été juste de l'autodidacte.
Non. J'ai vraiment pratiqué dans un atelier très longtemps au Mans que je fréquente d'ailleurs de temps en temps et encore.
Et alors, vous êtes formé aux Beaux-Arts et à Schlum, c'est ça?
Alors, chez Gaspard Schlum, donc c'est l'atelier que je fréquente depuis que je suis toute petite. Et je suis passée par Pivot, l'école Pivot d'art appliqué à Nantes.
D'accord.
Mais seulement un an, ça ne me convenait pas.
Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, du coup, plutôt l'atelier Schlum?
Énormément de choses. C'est un endroit où il y a une permission dans la liberté, dans la créativité, un encouragement Gaspard, c'est un pédagogue exceptionnel. Et une technique, une bonne technique en dessin, peinture. On apprend quand même des très jolies choses, une peinture à l'huile à l'ancienne. On touche à plein de choses, à la sculpture aussi, je sculpte aussi.
D'accord.
Et puis c'est vraiment un endroit de rencontre, d'échange, où on peut parler de tout.
Et alors, à contrario, qu'est-ce qui vous a pas plu à Pivot, du coup?
C'est plutôt une école très à appliquer. C'est vraiment beaucoup plus méticuleux, graphisme, moins de créativité. La créativité est la même, mais c'est
plus académique, quoi.
Très académique. Voilà, il y a beaucoup moins d'échanges dans l'académisme, la précision. Ce qui ne ressemble pas vraiment à ce que je fais.
Alors, un autre aspect de votre activité, qu'on mettra peut-être en parallèle plus tard, je ne sais pas. Vous avez travaillé dans le monde du vin pendant 10 ans. Pourquoi ce virage, si ça en a été un d'ailleurs?
Alors, ce n'est pas tellement un virage parce que j'ai continué à peindre depuis. C'est une parenthèse. Okay. Bon, là, j'ai bossé. Ouais, je reprends un travail dans le vin d'ailleurs. De toute façon, le vin, je le lâche jamais trop. On goûte, on profite, on va dans les vignes. Mais j'avais besoin de montrer ce travail.
D'accord.
Il fallait que je montre ce travail avant de passer à autre chose. Je ne l'avais jamais fait.
Du coup, il y a eu une parenthèse de 10 ans où du coup, vous peignez à côté de votre travail, quoi. Mais vous êtes remise à peindre activement pendant le confinement et vous avez même décidé de prendre une année de pause pour vous consacrer entièrement à la peinture. Ça demande une implication entière pour vous de peindre, en fait?
Alors oui. Oui, peut-être que dans les années à venir, ce sera différent parce que je l'aurais fait une première fois, mais la créativité, c'est quand même... Enfin, peindre, ça demande énormément d'énergie. Il faut se nourrir aussi beaucoup, il faut lire, faut lire. Moi, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de musique, je vais voir des spectacles, des expositions de peinture, et puis l'inspiration, c'est pas comme ça, quoi. On peut avoir de l'inspiration et pas avoir envie de travailler, pas d'inspiration. C'est assez intense sur des grands formats.
L'inspiration se travaille de toute façon.
Ça se travaille et puis ça se commande pas. J'avais besoin de temps.
Et du coup, c'est cette pause qui a fait naître les peintures exposées aujourd'hui à la brasserie 72?
En partie, oui. Il y en a deux, trois qui datent des années précédentes. Oui.
Ok. Et alors, c'est une expo qui s'intitule Vibrantes apparitions. Pourquoi ce titre?
Vibrante apparition, parce que je crois que dans les portraits, les corps qui sont représentés dans mes tableaux, on est toujours dans un instant assez intense, je pense, dans ce que je représente.
Okay.
Donc ça peut être comme un instant un peu volé, ou des choses un peu intenses.
Quelque chose de fugitif.
Ouais. Qu'on essaye de saisir des instants de plaisir, d'émotions fortes.
Du coup, il y a un côté un peu impressionniste ou pas, du coup, dans ce style de saisir le fugace ou pas vraiment?
Impressionniste, expressionniste beaucoup. Plus, d'accord. Je pense, comme je fais que beaucoup de figuratifs, ce sont que des
alors portraits, l'impressionnisme, c'est plutôt du côté du paysage,
voilà,
c'est ça.
Voilà, c'est ça, mais dans la pratique, ça pourrait...
D'ailleurs, vous, ces personnages, vous les peignez, vous peignez pas de l'abstrait déjà, vous peignez des personnages. Et pourquoi cette préférence pour le figuratif qui n'est plus vraiment à la mode, entre guillemets, dans la peinture contemporaine?
Le figuratif revient déjà beaucoup.
Approchez-vous du micro, pardon.
Le figuratif revient beaucoup depuis une dizaine d'années déjà dans la peinture. Et c'est vrai que j'aime parler des expressions, des gens. Le paysage, j'aurais peur de l'abîmer. Je crois que la nature se suffit à elle-même. Elle est tellement belle, ce qu'il en reste. Et c'est vrai que j'aime parler d'expression, d'essayer de transmettre un sentiment de quelqu'un. Puis je trouve qu'un corps, c'est beau. Toutes les expressions qu'un visage peut avoir en fonction du sentiment qu'il éprouve, je trouve ça assez fascinant.
Mais vos personnages, d'ailleurs, ils sont un peu étranges, sombres, maigres, torturés, tordus. Et en même temps, un peu sensuels. C'est très expressif, effectivement, mais en même temps, c'est inquiétant. Alors, pourquoi adopter ce ton, cette ambiance?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de sensualité dans ce que je fais. Je pense que le côté un peu inquiétant, c'est aussi je me dévoile beaucoup en montrant ce travail. C'est peut-être l'intensité de vivre les choses intensément. Inquiétant, je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'intensité... il y a des choses qui peuvent être un peu sombres.
Et alors, comment est-ce que vous l'obtenez, ce rendu, techniquement parlant?
Alors, il y a deux choses différentes, deux genres de peintures différentes, des choses qui sont plutôt en noir et blanc, sépia, où là, donc, je travaille seulement à l'huile, sur du papier blanc, un peu photo, un peu d'imprimerie, que je maroufle ensuite sur des grands châssis en bois que je fais moi-même.
D'accord.
Où là, je travaille assez rapidement, comme un peu un sculpteur, j'en mets, j'en enlève. Et ensuite, sur les peintures beaucoup plus colorées, je vais commencer à la gouache. Donc, c'est moi qui fais mes châssis sur du contreplaqué avec des tasseaux derrière. Ce sont des pièces qui sont assez lourdes, étant donné de leur taille, évidemment, aussi. Donc, je commence à la gouache, en noir et blanc, gouache couleur, vernis gouache. Et après, je passe à la peinture à l'huile.
Ok.
La gouache, ça permet déjà de mettre des sous-couches sur le bois, qui est quand même pas facile à travailler, d'avoir des teintes plus vives derrière aussi avec l'huile. Et après l'huile, on travaille avec des médiums vénitiens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches. Okay. Et un vernis pour finir.
D'accord. Ça doit demander des heures de travail.
C'est très long. La peinture à l'huile, c'est en plus une peinture qui est très longue à sécher.
D'accord,
donc c'est des longs travaux, et puis c'est des tableaux qu'on peut laisser pendant 6 mois avant de réussir à aller de l'avant, à s'y remettre.
Alors vous dites j'en mets, j'en enlève. Il y a pas endroit où vous grattez les couches de peinture, c'est ça, non?
Alors oui, ou plutôt sur les noirs et blancs un petit peu, oui.
D'accord. Ouais.
Ça va être je les enlève avec un chiffon, quoi.
Ok.
C'est vraiment c'est assez lisse.
Est-ce qu'il y a, alors on va passer maintenant plus au côté. Qu'est-ce qui vous inspire, en fait? On va plutôt parler des artistes qui vous inspirent. Est-ce que vous avez des références quand vous peignez, en tête?
Oui, il y a tout le monde, enfin il y a beaucoup de gens qui m'ont nourri, que ce soit en littérature, en peintre, en peintre. Je peux citer Lucian Freud, Gérard Garouste, Kokoschka, Alice Neel, Odillon Redon, Frida Kahlo. Schiele, Otto Dix, Le Greco.
Alors, vous parliez d'expressionnisme tout à l'heure. Les expressionnistes vous ont beaucoup inspiré, les expressionnistes allemands notamment, c'est ça?
Oui, allemands, français, un peu les Russes. Kokoschka était russe, il me semble, si je ne me plante pas.
Okay.
Mais c'est cette expressivité, cette intensité.
D'accord.
Et puis ces gestes aussi, enfin, ces coups de pinceau assez vifs, pas forcément tout minutieux, on est vraiment aussi sur de l'énergie, on sent l'énergie aussi.
D'accord, oui. On sent le geste,
mouvement. On sent l'énergie qu'il y a dans le mouvement, et ça me touche beaucoup.
Alors, ce qui est intéressant aussi chez vous, c'est que vous l'avez mentionné, votre pratique de la peinture, En fait, elle est aussi liée à d'autres arts. Vous avez évoqué la littérature. Est-ce qu'il y a d'autres arts qui rentrent en jeu comme ça?
Oui, là, par exemple, Hugo Pratt, en BD,
d'accord,
qui a une vie extraordinaire, m'a beaucoup, beaucoup inspirée et m'inspire toujours. Et c'est quelqu'un qui m'a aidée à rester curieuse quand l'école m'a moins encouragée dans la curiosité. La musique, c'est une source d'inspiration folle.
Ouais.
Les musiciens, les chanteurs, chanteuses, la musique, c'est une énorme source d'inspiration. Littérature, cinéma, photo, beaucoup de choses différentes. Ouais, en photo, Nan Goldin, Helmut Newton. En musique, on peut passer par tous les genres, ça serait très long.
Ça serait très long. Vous avez fait un portrait de Mano Solo, je crois, parmi les tableaux exposés, c'est ça?
Absolument, oui. Mano Solo, c'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné, qui m'accompagnera toujours, qui est très important. Enfin, parmi beaucoup, beaucoup d'artistes très importants, mais...
Et en littérature, alors, est-ce que vous avez quelques noms comme ça à donner?
Oui, alors, pareil, il y en a beaucoup. Joseph Kessel, Dostoïevski, Yourcenar, Alain Damasio, Beckett, Kate Tempest, Romain Gary, Gide.
Beaucoup d'auteurs du XXe siècle, j'ai l'impression quand même.
C'est vrai. Mais... Le XXe siècle m'inspire beaucoup.
Mais en même temps, des auteurs divers du XXe siècle, quand même. C'est pas...
Non,
mais
dans une littérature assez diversifiée.
Ouais.
Enfin, une culture. Enfin, parce que j'aime lire des choses assez diverses, comme en musique, finalement, où j'aime la diversité. Je pense que le monde est beau parce qu'il est varié.
Alors, vous avez mentionné aussi que vous sculptez également. Alors, c'est-à-dire, c'est vraiment une autre activité à part entière que, c'est quoi ce rapport que vous avez à la sculpture?
La sculpture, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait.
D'accord.
J'en ai beaucoup fait un moment. J'ai même commencé plus par ça quand j'étais jeune, enfin enfant, que par la peinture. Donc sur de l'argile, en argile. Après, c'est des choses qui demandent pas le même travail. On peut pas tout faire en même temps, sculpter, peindre.
Voilà, alors c'est pas le même travail, mais est-ce qu'il y a quand même des gestes que vous retrouvez dans la peinture et dans la sculpture? Vous n'êtes pas obligé de répondre oui.
Non, parce qu'on n'a pas rapport à la matière. Le rapport à la matière est complètement différent. On est vraiment avec ses mains dans la terre. Je sais pas s'il y a... Ouais, si on peut retrouver un peu en enlevant sur les tableaux, quand j'en mets, j'en enlève, mais il n'y aura pas le toucher. Vraiment avec la matière, l'argile, la terre qui...
Et alors, pour en revenir un peu au monde du vin d'où vous venez, est-ce que vous le liez d'une manière ou d'une autre à votre pratique artistique?
Alors, j'espère que ça pourra arriver. L'idée, c'est de vivre des deux, d'essayer de mélanger la peinture et de faire un peu de vin.
Ok, ouais.
Mais c'est une grande source d'inspiration aussi, le vin, les vignerons qui me sont chers, des gens qui travaillent bien, propres, en biodynamie, c'est toute une philosophie. Et puis, il y a aussi un sens du travail, de la terre, qu'on retrouve aussi dans la peinture où il faut beaucoup, 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 beaucoup travailler. Je m'en suis rendu compte au cours de cette année, le temps que ça pouvait demander.
Ouais.
Et les frustrations que ça pouvait engendrer. Et puis la peinture, c'est de la poésie aussi, dans une bouteille. Enfin, c'est un moment de partage, comme l'art, c'est fait pour être partagé également. Enfin,
D'accord. Et puis le vin, c'est peut-être aussi une forme d'art aussi. Il y en a
je suis complètement d'accord avec vous. C'est du grand art.
Alors, comment est-ce que vous envisagez votre peinture à l'avenir? Est-ce que de nouvelles interrogations se dégagent au cours de votre pratique?
Je ne sais pas trop. Là, c'est vraiment ma première exposition.
Vous n'avez peut-être pas une pratique très, très théorique de la peinture, quoi?
Non.
Non.
Non, je vais reprendre un travail où je vais être plus dans le social. Parce que an à tourner en rond dans un atelier, c'est un peu sport quand même. Et là, j'ai besoin de reprendre une vie avec des horaires un peu, un peu plus de rigueur. Enfin, non, pas de rigueur, mais de plus simple.
D'accord.
Moins réfléchir un peu dans un sens.
Un peu plus pragmatique.
De revenir un peu dans le pragmatique et mais continuer à produire.
Alors, cette exposition à la Galerie 72, vous l'avez dit, c'est votre première exposition. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Je vous pose une question.
Je suis allée au bout de mon idée. Au bout d'un projet qui est là depuis très longtemps, et je l'ai enfin fait. Voilà, j'ai mis longtemps à m'y mettre, à avoir la maturité, juste être prête à montrer mon travail, qui n'est pas non plus anodin dans les sujets. ça réveille quand même beaucoup de l'intime. Donc,
voilà. Donc c'est un accomplissement et en même temps c'est intimidant pour vous, quoi.
Ça a été très intimidant, ouais, mais c'est un accomplissement.
Et alors combien de tableaux est-ce que vous nous faites le plaisir d'offrir à notre regard à la Galerie 72?
Il y en a 12. 12 tableaux sur des grands formats.
Des grands formats, c'est-à-dire?
Alors, il n'y a rien en dessous de 60 par 80 cm et on en trouve à 1,60 m par 90 cm, des 100 par 120, des 80 par 90.
D'accord, ça minimum. Va. Voilà. Et alors, l'expo est visible jusqu'à quand?
Jusqu'au 27 avril.
Ça marche.
De, voilà, donc Brasserie Septembre 2, 17h-23h.
Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie, Aurore Boccadeoro, pour être venue nous parler de votre peinture, de votre travail.
Merci à vous, c'était très agréable, je vous remercie.
Je vous remercie. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Frustration et The Big ID le 4 avril à Jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Michel Gurvich, Temptation, choisi par Aurore Boccadeoro.
Me by the tracks, love me a good degenerate romance. With a side of class, champagne and oysters in the underpass. Life suffering, but less when we're skinny dipping. Want you close to me, but life is short, so better make it three. I haven't found a good reason. Why resist temptation with only one life to live? Why resist temptation? Feeling.
De retour dans l'amphi, alors notre chroniqueur étudiant a un peu de retard, donc en attendant, on va écouter À la Bachung Volute.
Volute par ton fumée, volute fond des nuées de scrupules. Volute par ton fumée, vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances, me lance des dagues et des lances. En toute innocence, volute par ton fumée, sous les yeux embués d'étranges libellules. Pour une grimace et un rictus de plus. Je fais des heures sous tout, je m'en donne de la peine, je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Je cloue des clous sur des nuages, la marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages, sans échafaudage. Des lunes surdouées, aux courbes souveraines, pleines, pleines. Volute par ton fumée, sous des soleils qui s'ignorent, dors, dormez, des réponses allongées. Mais que dire, mais que faire, mais comment ça tient l'air? Deux hémisphères, par quel mystère. Je cloue des clous sur les nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur les nuages, sans échafaudage.
Alors, mon chroniqueur n'est... Ah, si, si, on me fait signe qu'il est peut-être arrivé. Est-ce que Maxime est parmi nous? Ah, oui, alors ton micro n'était pas activé, mais... Ouais.
Oui, je suis Maxime, je viens d'arriver là, désolé, j'avais un peu de retard, il y avait pas mal de bouchons en ce moment.
Ouais, je comprends.
Il fait très froid et donc j'étais coincé dans ma voiture.
Je comprends. Bon, c'est évidemment pas Maxime, hein, vous le reconnaissez.
Ah mince.
C'est Simon de la Perse de l'Histoire. Comment vas-tu, Simon?
Ça va et toi, Charlie? C'est sur quoi ma chronique aujourd'hui, normalement?
Eh bien, écoute, c'était sur une chronique cinéma. Qu'est-ce que t'es allé voir au cinéma récemment?
Eh ben, je suis allé voir, alors c'est pas de bol parce que je suis rien allé voir, mais bah, il paraît que Kung Fu Panda 4 est pas mal, même si.
J'ai entendu Extendo, moi.
Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'apparemment, c'est clairement pas le meilleur quand même, parce que il est pas si drôle que ça. Beaucoup s'attendaient à de l'humour et en fait c'est pas très drôle. Ah. Et il y a une autre dinguerie qui est sortie, c'est Maison de retraite 2, qui est génial. Non, je regarde vraiment que des films de merde, c'est le mec, j'aurais dû faire chronique cinéma pourri, mais non, je sais pas, il y a quoi en ce moment. Dune 2 qui vient de sortir, Théophile qui est là aussi.
Dune 2 qui vient de sortir.
Enfin, qui est sorti il y a deux semaines déjà.
Deux semaines, même plus que ça, non? Ça fait pas un mois qu'il est sorti, Dune 2?
Oh, pas autant, non? Je sais pas, si.
C'est possible.
Ah, ça fait déjà un mois, temps passe vite, il n'y a plus de saison, comme on dit, à bon entendeur.
Mais bon, c'est des films qui restent deux mois dans les programmations.
Mais pour nos auditeurs et nos auditrices, Charlie, est-ce que toi, tu as une recommandation cinéma à nous faire?
Une recommandation cinéma à vous faire? Tac, 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 tac. Oui,
Ah, dis-nous tout.
Alors, je ne vais pas le dire trop fort parce que j'aimerais bien avoir une place, mais au Cinéaste, le 6 avril, il y a la projection du film La Danza de la Realidad de Jodorowsky dans le cadre du festival du film hispanique.
Et j'en étais douté à l'accent, oui, c'est vrai que...
Ouais, ouais. Et Jodorowsky, qui était le premier à avoir voulu adapter Dune au cinéma.
Non.
Le projet qui n'a jamais eu lieu parce que c'était trop big. Les producteurs, ils ont eu peur.
Voilà. Au niveau financier, j'imagine.
Ouais.
Il
y avait Dali dans le rôle de l'empereur. Il était payé 100 000 euros la minute.
Ah oui, d'accord. Ok, ouais, un peu cher. Et d'ailleurs, Dune, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Moi, j'avais toujours cru que Star Wars, enfin, Dune était un plagiat de Star Wars, mais pas du tout. En fait, c'est Star Wars qui a repris des éléments de Dune, puisque Dune était à la base un des précurseurs dans l'univers de la science-fiction. Je ne le savais pas.
C'est Maxime.
Maxime est là.
On n'est qu'un Maxime qui est là.
Qui nous faisions la temporisation.
Installe-toi vite, il nous reste 3-4 minutes.
Maxime qui est là. Attention, mesdames et messieurs, attention, c'est parti. C'est le moment de Maxime. Maxime pour la recommandation cinéma.
Hop, je mets le jingle des chroniques étudiantes. Allez hop, c'est parti. Directement, il n'y a pas le temps. Salut Maxime.
Salut à toi. Bonsoir à tous et tous. Ce soir, je vais vous proposer qu'un seul film.
Il est soufflé.
Je vais vous proposer qu'un seul film. Exceptionnellement, le film dont je vais vous parler n'est pas... n'est pas en salle, mais sur la plateforme de streaming Netflix. Le film du soir est Le Salaire de la Peur, réalisé par Julien Leclerc avec Alban Lenoir, Franck Gastambide et Alain Girardot. Le film raconte l'histoire d'un groupe d'humanitaires qui doivent faire 800 km dans le désert, dans des camions avec 2 tonnes de nitroglycérine, dans le but d'étouffer un feu au-dessus d'une poche de gaz qui, si elle explose, ferait des millions de victimes. Le film est le remake du film du même nom, réalisé par Henri-Georges Clouzot avec Yves Montand. N'ayant pas vu le film original de 1953, je ne me contenterai que de parler du remake. La mise en scène est assez dynamique, le film passe assez vite et les acteurs jouent vraiment bien. Cependant, le film n'échappe pas à beaucoup de problèmes, notamment le personnage interprété par Anna Girardot, qui a été présenté comme un personnage féminin fort, se révèle finalement être un personnage qui passe son temps à se plaindre, à rester dans le camion ou à pleurer. Quant au personnage interprété par Sofiane Zermani, Fianso pour les intimes, j'ai oublié son nom, se trouve être le nom du personnage... se trouve être un personnage cliché, creux, qui mène à des éléments prévisibles. L'intro du film est un peu longue, mais il y a des solides scènes d'action. Pour conclure, je dirais que ce remake du Salaire de la Peur est entraînant, mais oubliable assez rapidement, essayant d'être émouvant, mais les personnages ont si peu de profondeur que ça ne fonctionne pas. Les acteurs s'en sortent bien, mais n'ont pas grand chose à jouer.
Eh bien, merci Maxime d'avoir couru pour faire ta chronique envers et contre tout. Merci. Eh bien, écoutez, on va se quitter maintenant. Merci d'avoir écouté l'Amphi. On se retrouve mercredi 3 avril pour parler du projet SICOMOVE qui étudie les collections des musées en tant qu'objet producteur de connaissances. Puis on présentera le Trail des Boss, un événement sportif pour tous à l'université. À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.